innovation as a key driver of its economy.
D'entrepreneur, on parle innovation.
Investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Bienvenue à toutes et à toutes sur notre radio de Compiègne, la radio Graphite 94.9 FM. Aujourd'hui, je suis votre commandant de bord, Pierre-Louis Taillette, et nous allons vous présenter la rubrique « Les échos de l'innovation », accompagné de Monsieur Tao devant moi.
Oui, salut.
Et à côté, à ma gauche, de Hector.
Salut. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ?
Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler IA et plus spécialement des IA décisionnelles. Aujourd'hui, on fait face à une inquiétude assez fascinante. C'est le fait que tout est commandé par IA. Beaucoup de décisions de notre quotidien sont prises par les IA. Et qu'est-ce qui en découle ? Effectivement, cette question est revenue dans la presse locale et internationale. En mars 2018, quand une voiture autonome d'Uber a mortellement percuté un piéton, Hélène Herzberg, qui, le système, avait pourtant détecté plusieurs secondes avant l'impact. L'IA embarquée a changé plusieurs fois sa classification de l'objet. Piéton, vélo, autre, en prêchant une prédiction fiable de sa trajectoire. D'autant qu'elle ne prenait pas en compte le fait qu'il y avait des traversées de piétons hors des passages piétons. Ce système a donc réagi trop tard et le conducteur de sécurité, distrait par une vidéo, n'a pas pu compenser. Après une enquête, Uber a corrigé ses failles techniques, mais cet accident a révélé de graves limites dans l'anticipation et la responsabilité des voitures autonomes. Et par ces voitures autonomes, nous avons aussi l'IA décisionnelle. À travers ce cas réel, une problématique s'impose. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de décisions à notre place, parfois dans des domaines vitaux. Alors peut-on encore parler de décisions humaines ? Où peut-on parler d'erreurs algorithmiques ? Aujourd'hui, nous allons essayer d'y voir plus clair dans ces IA décisionnelles et de ce qu'elles apportent, qui est le responsable. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer ce qu'est une IA dite décisionnelle, comment elle marche, dans quel secteur elles sont utilisées. Ensuite, nous poserons la question de la responsabilité, qui porte le choix des faits des machines. Nous parlerons aussi de leur transparence. Peut-on contrôler et comprendre l'IA ? Que pouvons-nous faire quand nous sommes face à des boîtes noires ? Et enfin, une chose est sûre, c'est que dans un monde de plus en plus gouverné par les algorithmiques, cette rubrique et ces questions sont d'une importance vitale à se poser.
Et ensuite, c'est l'IA dans les décisions critiques. De quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, décisions naines, on design une IA capable de prendre des décisions sans intervention humaine directe à chaque étape. Correctement, elle analyse des données, les compare à des modèles, puis choisir une action selon ce qu'elle estime être la meilleure option. Cette capacité repose principalement sur des algorithmes d'apprentissage automatique qui s'entraînent à partir des millions d'exemples. Cela ne signifie pas qu'elle pense, mais qu'elle applique des règles statiques complexes.
Je vous remercie. Tao qui nous vient de Chine, c'est ça ?
Oui.
Qui est arrivé assez récemment en France, donc nous demanderons à nos auditeurs de faire preuve d'un peu de compassion, bien sûr. Et pour reprendre l'effet de Tao, nous avons un exemple très concret qui est cette même voiture autonome. La voiture autonome, elle doit interpréter en temps réel les panneaux, les piétons, les autres véhicules et réagir en conséquence. Un choix mal calculé peut coûter la vie. Mais réellement, quand on dit qu'elle doit interpréter les piétons ou toutes ces choses, elle ne sait pas réellement ce qu'est un piéton. C'est simplement qu'après une somme de batteries d'analyse, elle a détecté par ses statistiques que si une masse est située sur deux bâtons pour elle, qui sont nos jambes, alors c'est un piéton et on se doit de l'éviter. Hector ?
Oui, mais on peut aussi citer d'autres exemples, autres que les voitures autonomes. Dans le monde du travail, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des IA pour trier automatiquement des centaines de CV, ce qui peut paraître assez logique et bénéfique pour eux, ça leur fait économiser beaucoup de temps. L'IA va alors repérer des mots-clés, des parcours types, et pour sélectionner le candidat parfait. Mais elles peuvent aussi parfois écarter des bons candidats à cause d'un biais ou d'une formulation atypique. Et donc à ce moment-là, on peut se demander comment faire. Est-ce qu'il faut faire des CV spécifiquement pour les IA, pour les entreprises? Il y a aussi la finance, où des algorithmes qui contrôlent les investissements en bourse à une vitesse fulgurante. Si jamais vous en utilisez, vous pouvez gagner ou perdre des millions en quelques secondes. Et parfois, dû à cette vitesse inatteignable par nous les humains, ils peuvent déclencher des mini-cracks boursiers qu'aucun humain ne peut stopper à temps. Dans tous les cas, ce sont bien des machines qui décident. Souvent, beaucoup, beaucoup plus vite que nous. C'est difficile de les arrêter. Mais pas toujours, elles ne prennent pas toujours les meilleures décisions. Et quand les conséquences sont graves, une question s'impose alors. Qui tient vraiment les commandes?
C'est vrai qu'Hector, quand vous parlez de CV, c'est spécialement pour l'IA. Pour rappel, les Échos de l'innovation sont une émission créée par des étudiants de l'UTC. Et il est vrai que nous avons une matière et nous avons quelques cours qui nous apprennent à faire notre CV pour IA. Donc ça montre que l'IA est réellement ancrée dans notre quotidien. C'est des problématiques qu'on se pose et pour lesquelles on se doit d'adapter. Alors, quand l'IA se trompe, nos auditeurs sont en droit de se demander qui sont les responsables. Demain, une personne que j'aime, un être cher, se fait écraser par certaines voitures d'Uber. Je veux pouvoir trouver un responsable. Et cette question, elle est assez vertigineuse, elle peut donner le vertige parce qu'elle n'est pas simple à résoudre. Effectivement, nous avons demandé, posé la question, regardé un peu les points de vue de différents spécialistes de l'IA. Et ce premier spécialiste, c'est Monsieur Alain Benoussan, avocat spécialiste du droit numérique. Et pour lui, la réponse est claire. Une IA n'a pas de volonté, pas de discernement. Ce n'est pas une personne morale, donc elle ne peut pas être responsable. Mais cela ne veut pas dire que personne ne l'est. Donc, selon lui, l'IA étant considérée seulement comme un outil, c'est l'utilisateur et le créateur de cet outil qui sont peut-être responsables, mais en aucun cas l'IA elle-même peut être portée responsable si elle dérape.
Mais je pense que cette logique ne satisfait pas tout le monde. Pour la philosophe du droit, Antoinette Rouvolf, spécialiste du gouvernement algorithmique, le vrai danger, ce n'est pas qu'on designe trop de responsables, c'est qu'on n'en designe aucun. On parle souvent d'IA comme d'une bosse noire, mais cette bosse noire, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat d'un travail humain, économique, politique. Le vrai risque, c'est que cette complexité devient une alibi. Et dans certains cas, c'est déjà qu'on observe lorsqu'une IA prend une décision dans un contexte critique, comme à l'hôpital, dans un tribunal ou à la bourse, il devient très difficile de designer une faute précise car la machine fonctionne selon des milliards de paramètres invisibles.
Alors après, la question qui se pose donc, c'est faut-il créer un nouveau statut juridique pour l'intelligence artificielle? Or, on peut retrouver différents camps. Certains, notamment à Bruxelles, l'envisagent. L'idée lui reconnaissent une forme de personnalité électronique, un statut légal qui permettrait de centraliser la responsabilité. Ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle les personnalités juridiques. C'est lorsque, par exemple, des entreprises, associations, États sont reconnus comme des personnes morales d'un point de vue légal. Alors pour ça, il faut plusieurs caractéristiques. Il y a quand même des dates de naissance ou de mort, mais donc dans ce cas-là, plus de création ou de dissolution pour les entreprises, des identités propres et des droits et des devoirs. Alors donc, toutes ces caractéristiques seront à définir pour les IA, mais ça peut être une possibilité. Par contre, on peut retrouver un camp qui a plutôt l'avis opposé, qu'on pourrait considérer plus pragmatique, qui voudrait une transparence obligatoire des entreprises. Pas besoin de donner des droits aux IA, il faut imposer aux entreprises qui les utilisent de garantir une traçabilité, leur auditabilité, et une supervision humaine. En clair, on ne veut pas savoir si une IA peut se tromper, vont savoir qui était aux commandes quand ça s'est produit. Je ne sais pas, par exemple, ce que vous en pensez, Pierre-Louis, si vous avez un avis sur les deux opinions.
C'est vrai que c'est assez intéressant. Le fait de donner un statut juridique, ça impose aux entreprises que leur IA, comme une personne à part entière, ne doit pas se tromper. Après, je ne sais pas si c'est possible sur le point de vue purement méthodique. Rien n'est parfait. Néanmoins, je pencherai plus pour la deuxième option, une option plus pragmatique, qui est le fait de savoir et de connaître comment ces IA prennent des décisions. Et c'est d'ailleurs le thème de notre prochaine rubrique, qui est la transparence et la limite des algorithmes. Parce que bien que les IA soient partout dans notre quotidien, on a parfois du mal à les comprendre et à savoir comment elles sont arrivées à une décision. C'est là toute la question de la transparence algorithmique. Beaucoup de systèmes d'IA modernes, notamment se fondés sur l'apprentissage automatique ou des réseaux de neurones profonds, fonctionnent comme des boîtes noires. On leur donne des données, elles produisent une décision, mais entre les deux, le raisonnement est souvent opaque, même pour leurs créateurs, et c'est d'ailleurs un problème que l'on nomme le problème d'alignement. Je laisse Tao vous l'expliquer.
On parle alors de problème d'alignement. L'IA optimise ce qu'on lui a appris, mais pas forcément ce qu'on voulait vraiment qu'elle fasse. Par exemple, si vous entraînez une IA à recruter comme les meilleurs cadres de l'entreprise actuelle, elle peut apprendre à discriminer sans qu'on le lui a explicitement demandé, parce que dans les données passées, il y avait une bias. Elle l'a appris, elle le reproduit sans conseil ni malveillement, juste mathématiquement.
Pour mieux comprendre tout ça, nous avons interrogé Cécile Wendling, une experte en éthique des technologies, et on trouvait qu'elle résumait assez bien le paradoxe. Je la cite: « Une IA peut prendre des milliers de décisions par seconde, mais aucune ne peut être expliquée simplement. On se retrouve avec des systèmes ultra efficaces, mais qu'on ne peut pas interroger. » Cette opacité pose des questions critiques dans le domaine comme la santé, la justice ou encore la finance. C'est des domaines où l'IA peut être assez importante, mais qui peuvent avoir des décisions qui ont des conséquences sur la vie de centaines de milliers, de millions parfois de personnes. Comment contester une décision si personne ne peut la justifier? Peut-on faire confiance à un système qui ne rend pas de compte?
Effectivement, c'est là où le juridique vient rencontrer le scientifique. Et devant cette problématique, une nouvelle branche des sciences est apparue, c'est celui de la traçabilité algorithmique. Il s'agit de développer des outils qui permettent d'auditer les décisions des IA, comme on audite les comptes d'une entreprise. C'est le rôle de ce qu'on appelle aujourd'hui les IA explicatives, explainable IA, AI, pardon, en anglais. C'est d'ailleurs ce terme-là que vous entendrez le plus souvent. Et c'est quelque chose qui ne se contente pas de dire « voici la décision », elle ajoute cette IA explicative « voici les facteurs qui y ont conduit ». Donc, elle vient nous donner les paramètres d'entrée qu'on a donnés dans la machine, elle vient expliquer son raisonnement pour ensuite sortir cette décision en face de nous. Mais cette tâche, vous en doutez bien, si elle était aussi simple que ça, tout le monde le ferait depuis le début. Or, ce n'est pas le cas. Parce qu'on arrive devant un dilemme technologique et matériel. Plus une IA est rapide et efficace, plus cette IA se révèle être une réelle boîte noire. Le problème d'incorporer une IA explicative dans un système de réflexion neuronale, c'est que ça va réduire les performances au privilège de la transparence. Et c'est ici qu'on se retrouve devant un choix législatif. Choix législatif qui, pour l'Europe, est incontestable. Il doit y avoir une règle claire. Pas de décision automatisée sans justification humaine possible. Cela signifie que dans tous les cas, il doit y avoir une explication et un responsable, ainsi qu'une voie de secours. Et ce n'est d'ailleurs pas seulement un enjeu technique ou juridique, c'est aussi un enjeu de confiance. Ces IA prennent une place croissante dans nos sociétés. Nos auditeurs, nos citoyens, tous les habitants de ce monde sont en droit de se demander comment ces IA ont décidé. Messieurs, mesdames, je vous lance une courte pause musicale afin que vous puissiez réfléchir et incorporer cette masse d'informations qui, je peux vous l'avouer, peut faire peur au premier abord. De retour sur la radio graphite de Compiègne 94.9 FM, c'est les ICO de l'innovation et nous parlions IA et surtout IA décisionnelle, les impacts dans la société, qui est le responsable quand les IA se trompent, et nous démarrons notre nouvelle rubrique vers une IA responsable. Quels sont les différents scénarios d'avenir? Je laisse Hector nous présenter cela.
Eh bien, comme on en parle depuis le début de cette émission, et comme vous le voyez au quotidien, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce n'est plus une technologie du futur, ce n'est plus un rêve, elle est là. Dans nos hôpitaux, nos voitures, nos administrations. Et elle prend des décisions importantes qui ont des conséquences sur des millions de vies. C'est face à ce pouvoir grandissant, une question devient urgente. Comment encadrer cette IA pour qu'elle reste au service de l'humain? La réponse passe d'abord par le droit. L'Europe a été pionnière avec le AI Act, un règlement adopté en 2024. C'est la première tentative au monde de cadre légal complet pour l'intelligence artificielle. Il classe les systèmes d'IA selon leur niveau de risque, inacceptable, élevé, limité ou minimal, et impose des obligations strictes aux applications jugées sensibles. Pour vous donner un exemple, pour mieux comprendre, une IA utilisée pour le recrutement, la justice ou les soins médicaux devra prouver sa transparence, sa sécurité et son respect des droits fondamentaux. Certaines pratiques sont même interdites, comme la notation sociale faite par exemple par le gouvernement chinois ou les systèmes de surveillance biométrique généralisés.
Mais la régulation ne fait pas tout. D'autres initiatives voient le jour dans le laboratoire et les langues entreprises autour d'un concept devenu central, l'IA éthique. Cela passe par le SARS, les labels ou des comités d'éthique internes. Des chercheurs militants aussi font des pratiques de conception plus responsables, intègrent la diversité des points de vue de la création de l'algorithme, testent le bias ou prévoient des filets de sécurité humaine.
Il est vrai, des filets de sécurité humains, des tester les biais de ces IA, mais Tao, vous avez raison, il faut tester tout ça, il faut être en sécurité, et pour être en sécurité, il faut se questionner sur qu'est-ce que nous allons considérer réellement comme une IA. Parce qu'une IA, c'est une idée qui est maintenant débattue. Certains veulent leur donner, comme nous avons vu précédemment, une personnalité juridique, et une personnalité juridique d'ailleurs comme toutes les entreprises, mais uniquement à des IA avec des systèmes de raisonnement profond, neuronal et pleinement complexe. L'IRE serait de reconnaître un statut spécifique à certains systèmes automatiques très avancés afin de pouvoir leur attribuer une forme de responsabilité. Même si en pratique, ce sont toujours des humains ou des organisations derrière. Mais cette solution, elle est controversée. Parce que donner une personnalité à une IA, c'est risquer de diluer les responsabilités au lieu de les clarifier. Et surtout, cela pourrait faire oublier une vérité essentielle. Ce ne sont pas des machines qui doivent être tenues pour responsables, mais ceux qui les conçoivent, les déploient et les utilisent. Je ne sais pas, Hector, ce que vous en pensez, mais c'est vrai que cette idée de donner une personnalité à un outil, ça peut ressembler d'une part un peu à du lobbyisme des grandes industries de l'IA comme OpenAI pour essayer de cacher, mettre un peu la poussière sous le tapis et protéger leurs ingénieurs, créateurs et leur manière de faire pour prendre des décisions avec leur IA.
Je suis assez d'accord. On dirait qu'ils essayent de contourner l'étape où ils devraient assumer certaines des conséquences de leur travail. Moi, je me dis aussi d'un point de vue, si jamais ça arrivait à quelqu'un, enfin, par exemple, si on prend l'exemple de Hélène Herzberg, imaginez quelqu'un de proche qui se fait renverser par une voiture et la seule justification qu'on vous donne, c'est que la personne responsable est l'IA. Je pense que je comprendrais totalement si ça énerve les personnes. Et je trouve que oui, ces entreprises évitent leurs responsabilités. Et je trouve ça assez dommage.
Après, je peux me permettre de faire l'avocat du diable. L'IA, c'est un secteur énorme. Le développement d'une IA, ce n'est pas une personne, c'est des centaines de personnes. Comment on pourrait s'assurer qu'en cas de dommage, nous soyons protégés face à ces IA décisionnelles?
Je sais qu'une des pistes les plus concrètes, mais à ce moment-là, c'est pour les entreprises, ça sert à créer des systèmes d'assurance pour l'IA, comme on fait déjà par exemple pour les voitures. Prenons un exemple, si un système se trompe et cause un dommage, par exemple, comme on l'a dit, ça peut être une voiture Tesla qui percuterait quelqu'un, ou alors des erreurs médicales, il y aurait une indemnisation automatique qui serait prévue sans avoir besoin de passer par une longue procédure juridique. On pourrait aussi parler de responsabilité partagée entre le développeur, le concepteur, l'exploitant, l'utilisateur, etc. C'est un peu comme dans l'aviation où plusieurs maillons de la chaîne peuvent être impliqués en cas d'accident. Ce n'est pas uniquement le pilote ou le concepteur, c'est une rangée entière de personnes qui sont plus ou moins responsables.
Mais alors si je comprends bien, Hector, ici, pour ces entreprises comme OpenAI qui ont pratiquement des revenus financiers illimités pour leur IA et leur développement, si l'IA se trompe, c'est simplement un système d'assurance qui vient prendre en charge ses dégâts. Ça me semble un peu simple. Enfin, je veux dire, moi, si demain j'ai un être cher qui se fait renverser, j'aimerais bien que le côté juridique et pénal prenne le relais.
Je suis d'accord. Et je pense que si j'étais dans la situation que vous venez de parler, j'aurais la même remarque. Alors, tout ça, c'est encore une fois en cours de création. Comme on l'a dit, par exemple, l'AI Act était assez novateur, donc il y a très peu de législation. C'est quelque chose qui doit se créer au jour le jour. Mais ce serait... ce qui me dérange le plus, je pense, avec cette solution d'assurance, c'est que j'ai l'impression qu'il y aurait une idée de... Il y aurait des erreurs systématiques. Je pense que ce qui est important avec l'IA, c'est qu'il y aura forcément des erreurs. Soyons réalistes, ça me paraît assez... évident qu'il y en aura, mais il faut que ce soit réservé au minimum et il faut que ce soit des exceptions. Moi, j'ai l'impression que quand on parle de système d'assurance, ça reviendrait à dire que ce sera quotidien et banal qu'il y ait des erreurs et donc qu'ils aient un système automatique. Je suis quand même assez d'accord sur le point de vue, sur le sens où on dirait qu'ils évitent les conséquences de leur IA en simplement disant « c'est pas grave, vous aurez l'assurance ».
Mais du coup, pour nos auditeurs, j'ai compris, c'est pourquoi ne pas simplement, peut-être que nous avons mal compris cette rubrique, ça va nous permettre aussi de faire un rappel, pourquoi ne pas simplement appliquer une sanction pénale? Qu'est-ce qui nous en empêche technologiquement?
Eh bien, on va revenir à ce qu'on a parlé plus tôt, mais c'est l'incompréhension des IA. Comme on a dit, c'est encore quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, et si on veut apposer une sanction pénale, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Il faut qu'on puisse dire, déjà, si on met une sanction, qui l'apprendra ? Est-ce que c'est la personne qui utilise l'IA ? Puisque ça peut potentiellement être quelqu'un qui a juste mal utilisé une IA. Est-ce que c'est l'entreprise dans son global ? Est-ce que c'est les concepteurs de l'IA ? Vu à quel point l'IA est quelque chose de compliqué à comprendre et qu'on l'étudie chaque jour, mais on a encore du mal, c'est ça le problème en fait avec l'IA, c'est l'incompréhension. Après, il y en a certains qui militent pour une mise en place de labels publics ou indépendants pour les IA. Donc par exemple, comme les labels bio ou les certifications énergétiques, ils garantiraient qu'un système a été conçu et évalué selon des critères éthiques et stricts. Quels seraient ces critères ? C'est encore quelque chose, comme j'ai dit, toutes les législations sont en cours de conception, il faudrait faire. Mais cela permettrait d'avoir des IA qui respecteraient certaines conditions imposées et qui permettraient d'avoir une sécurité maximale pour nos citoyens.
Donc peut-être qu'une solution législative et le premier pas à faire serait de forcer ces entreprises du numérique à créer ces IA explicatives en Europe sous peine de sanctions.
C'est ça. Alors, pour tout ce qui est écriture du AI Act, on ne peut pas obliger des entreprises non européennes à les appliquer. Par contre, si elles veulent proposer leurs produits en Europe, elles devront respecter ces règles. C'est ça qu'on oblige. Sinon, elles ne pourront tout simplement pas. Et donc oui, ça permettrait à toute entreprise IA proposant leurs produits sur le territoire européen de devoir contrôler, on pourrait dire, leur IA et la gérer de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident ou de problème.
D'accord, très bien. Donc, le premier step serait que les pouvoirs publics forcent un peu ces entreprises à expliquer ce qui se passe
ça passera,
à l'intérieur de leur IA.
Ça passera forcément par la loi et la législation. Ça me paraît assez obligatoire et je pense qu'on ne pourra... Tant qu'il n'y aura pas de législation, il n'y aura pas vraiment d'avancée sur ce secteur.
Et pour ça, ça demande des avancées scientifiques qui demandent un petit peu de temps. Donc vers une IA responsable, rien n'est certain. Mais une chose est claire, il ne suffit pas que l'intelligence artificielle soit performante. Elle doit aussi être digne de confiance, compréhensible et encadrée. Et cela demande un effort collectif, juristes, ingénieurs, citoyens, politiques, pour que les choix ne soient pas laissés aux seules machines, ni à ceux qui les fabriquent.
Après avoir exploré les défis liés à la responsabilité, la transparence et l'éthique de l'intelligence artificielle dans les domaines critiques, il est clair que la question dépasse la simple technique. L'IA ne doit pas seulement être performante, elle doit être maîtrisée et guidée par des valeurs humaines. Nous sommes à un moment charnière où la technologie pousse nos sociétés à repenser la notion même de la responsabilité et du contrôle. Qui décide ? Qui agit ? Qui répond en cas d'erreur ? Ce sont des questions qui nous concernent tous, car l'intelligence artificielle est là, dans nos vies, et son impact ne cessera de grandir.
Mais comme nous l'avons dit en début d'émission sur les échos de l'innovation, radiographique de Compiègne, 94.9 FM, nous avons uniquement parlé aujourd'hui des IA décisionnelles. Ces IA qui prennent des décisions critiques dans la santé, la sécurité ou la finance. Mais il existe aussi de nouveaux types d'IA aujourd'hui, les IA génératives, qui elles se spécialisent un peu plus dans l'art, la création, la culture. Effectivement, pour certains, on peut attribuer à ces IA une forme de personnalité, de réflexion, de conscience. Et qui dit tous ces attributs dit peut-être possibilité de créer de l'art. Et c'est d'ailleurs sur ce quoi on va s'intéresser dans notre prochaine émission des Échos de l'innovation. C'est l'IA générative. Est-ce que c'est quelque chose qui crée un vrai art ? Est-ce que on pourrait considérer ça de l'expression humaine ? Toutes ces questions seront traitées dans notre prochaine émission. Et je vous laisse réfléchir, vous auditeurs. Si demain, votre émission, votre film préféré était créé par IA, est-ce que ça vous dérangerait déjà moralement, professionnellement ? Et est-ce que vous considériez cette création comme humaine ou non ? C'était un plaisir de partager cette émission avec vous. Je te remercie, Tao.
Oui, je suis venu passer.
Je vous remercie, Hector.
Merci à toi aussi.
C'était les échos de l'innovation. Bonne soirée, bonne journée. Longue vie à vous. Jingle composé par Joseph Brichet et Gabriel Gingembre pour l'émission sous licence libre créative Commons CC BY SA.